Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Alors je le rappelle à ceux qui nous suivent depuis un quart de siècle maintenant et je l'apprends à ceux qui nous rejoignent ce jour. 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale ces petites images qui bougent sur de grands écrans, de préférence, voire exclusivement, depuis maintenant un bon siècle. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission de 24 notes secondes à évoquer un réalisateur, et plus précisément trois films de l'un des plus grands réalisateurs américains de ces, 30 dernières années. C'est le réalisateur des Incorruptibles, c'est le réalisateur du Bûcher des Vanités, c'est le réalisateur d'Outrage, et oui, peut-être l'avez-vous déjà reconnu, il s'agit de Brian De Palma, largement spécialisé dans le genre fantastico-horrifique, mais qui, et les titres que j'ai évoqués le soulignent, ne dédaigne pas non plus d'explorer d'autres voies, d'autres genres du cinéma américain. Brian De Palma s'est imposé tout au long des années 70-80 comme l'un des très grands esthètes du cinéma américain, comme un de ces cinéastes qui ont certes la préoccupation de la belle histoire, voire de la bonne interprétation, mais aussi celle du cadre, mais aussi celle du montage, mais aussi celle de la photographie, mais aussi, et j'y viens dans 24 notes secondes, celle de la musique, puisque comme collaborateur, Brian De Palma a choisi les plus grands, voire les meilleurs, Ennio Morricone, John Williams et quelques autres que nous allons, pour certains d'entre eux seulement, évoquer dans le cours de cette émission. Juste quelques mots biographiques puisés dans mes petites fiches inséparables que je suis dans mes petites fiches non fidèles le savent, pour vous préciser que Brian De Palma, originaire du New Jersey, où il naquit, soyons précis, le 11 septembre 1940, passa son enfance à Philadelphie, l'une des villes les plus importantes de l'histoire américaine, comme le savent les américanophiles, voire les autres, qu'il se passionne très tôt pour les matières scientifiques, puis pour le théâtre, qu'il étudie à la Columbia University, avant de tourner ses premiers films. Je vérifie ma petite fiche. Dès l'âge de 20 ans, puisqu'à 20 ans, on le voit tourner des films en 16 mm, Icarus, The Story of an IBM Card, qui devait vraiment être quelque chose de très palpitant. Bref, pendant, on va dire, une petite dizaine d'années, eh bien, Brian De Palma franchira quelques galons, quelques étapes, quelques barreaux d'échelle vers la gloire cinématographique hollywoodienne. On le verra dans des films de commande, par exemple pour le Musée d'Art Moderne de New York ou pour l'Association pour l'avancement des gens de couleur, etc., etc. Jusqu'à ce que il puisse enfin enchaîner sur des choses sérieuse, notamment en 1970 sur un film que je l'avoue je n'ai pas vu qui s'appelait Get to Know Your Rabbit, premier film qui pourtant devait valoir la peine d'être vu puisqu'on y voyait Orson Welles lui-même dans le rôle d'un magicien. En 1972, c'est Sœurs de sang, Sisters en anglais, en américain, avec Margot Kidder qui fut par la suite, petite anecdote, la fiancée de Superman, alias Christopher Reeve, dans deux ou trois opus, je ne sais plus trop, pour un film dont la musique était signée de Bernard Herrmann et qui lorgnait très outrageusement vers Alfred Hitchcock, qui fut le compositeur, l'un des compositeurs attitrés du dit Alfred Hitchcock pour un film. Donc, je répète, soyons précis, qui lorgnait du côté des histoires hitchcockiennes avant d'enchaîner. Nous allons écouter un petit extrait quand même de musique en 1974 avec un remake, ma foi, fort réussi du Fantôme de l'Opéra de notre vénérable Gaston Leroux. Ça s'intitulait Le Fantôme du Paradis et la chose était revisitée dans le monde pop. Une réussite qui fut sans doute le premier grand succès commercial de Brian De Palma qui lui valut même un grand prix au Festival d'Avoria, ce festival français, mais réputé de cinéma fantastique et qui lui permit d'enchaîner en 1976 sur un film dont nous allons enfin, je vous entends, dire autour de votre petit poste de radio ou devant vos grosses baffles, dont nous allons écouter un extrait. Un film intitulé Obsession, et en anglais, le croiriez-vous, ça s'appelait aussi Obsession, tourné donc en 1976 dans les rôles principaux duquel on voyait Cliff Robertson, Geneviève Bujold de John Lithgow. Je l'ai dit, je l'ai esquissé, je l'ai maladroitement bredouillé. La musique de ce film était aussi signée de Bernard Herrmann, compositeur attitré d'Alfred Hitchcock, et nous allons en écouter un large extrait. Vous êtes bien sur Divergence FM et vous êtes bien dans 24 notes secondes. Voilà, large extrait de l'envoûtante partition de Bernard Herrmann pour le film de Brian De Palma, Obsession, tourné en 1976. Alors, les réminiscences hitchcockiennes sont plus que présentes. Les amateurs reconnaîtront peut-être, en tout cas pour moi, certains accents de la partition de La mort aux trousses, North by Northwest, l'un des grands chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock et l'une des grandes musiques de Bernard Herrmann pour le susdit Alfred Hitchcock qui, comme je l'ai esquissé avant de présenter ce morceau, eh bien, est certainement l'une des plus grandes références cinématographiques de Brian De Palma, qui ne s'en est pas caché, dans les années 70, de faire quelques films qui étaient des hommages et donc de puiser, tout comme d'ailleurs un certain Martin Scorsese qui offrit à Bernard Herrmann l'occasion de son ultime et magnifique partition pour Taxi Driver avec Robert De Niro et Jodie Foster, vous vous en souvenez certainement. Brian De Palma qui disait donc à l'époque du tournage, ou plutôt de l'écriture d'Obsession, que le film lui avait été largement inspiré par un autre chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock et une autre musique de Bernard Herrmann, le fameux Sueur froide alias Vertigo en version originale où l'on retrouvait Kim Novak et James Stewart. Quelques figures prestigieuses à ce générique d'Obsession que je m'en voudrais de ne pas citer, donc je le fais. Et en l'espèce, le co-scénariste Paul Schrader, qui fut l'un des grands scénaristes du cinéma américain des années 70, avant de devenir un réalisateur, ma foi, peut-être un peu moins bien inspiré, en tout cas un peu moins bien commercialement reconnu, puisqu'on lui doit quand même quelques films assez intéressants. Alors, on pourra ne pas s'attarder sur American Gigolo, tourné en 1981, qui pourtant offrait un rôle relativement acide à Richard Gere. On peut encore moins s'attarder sur La Féline, Cat People, remake bien improbable, tourné en 1982. Par contre, eh bien, on avait, pour ce qui nous concerne, beaucoup apprécié en 1985, Mishima, une sorte de biographie un peu hallucinée du romancier japonais, musique de Philip Glass, et en 1988, la vie de Patty Hearst, cette otage tombée amoureuse de ses bourreaux, qui fut un des grands faits divers américains des années 80, et dont Paul Schrader avait fait un excellent film avant, ma foi, eh bien, de continuer à tourner des films un peu moins intéressants, dont certains d'ailleurs sont totalement inédits de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est par exemple le cas de The Wall Walker, tourné en 2006, même si on a pu le voir à la télé pour les plus, on va dire, chanceux d'entre nous. Un autre petit mot aussi, les fidèles de 24 notes secondes savent que, pour ce qui me concerne, je n'ai qu'une seule obsession pour rester dans le sujet, les femmes. Et donc, un petit mot sur l'actrice principale d'Obsession. En l'espèce, la délicieuse, l'adorable, la délicate, l'indispensable, quoique maintenant un peu éclipsée, Geneviève Bujold, actrice québécoise, mais oui, née quelque part, ça ne vous regarde pas, à Montréal, et qui, eh bien, quand je regarde sa fiche, dans les années 70, connut ses heures de gloire, puisque cette même année 1976, qui la vit en vedette dans Obsession, on la trouva aussi au générique aux côtés de Jean-Paul Belmondo, de L'Incorrigible, de Philippe de Broca, du Pirate des Caraïbes, de James Goldstone, qui devait être une sorte d'ancêtre à Pirates des Caraïbes, les trois, vous le savez, tout comme moi. Et on l'a vu l'année suivante dans un bon film de Claude Lelouch, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter, Un autre homme, une autre chance, où on voyait aussi James Caan pour une histoire virile quelque part dans l'Ouest américain. Ensuite, eh bien, comme souvent, la carrière de la délicate Geneviève fut quelque peu à éclipse, mais on retiendra, s'il en fallait un film culte de l'autre côté de l'Atlantique, je veux dire là-bas aux États-Unis, vous le croirez si vous voulez, un film tourné en 1967 par ce même Philippe de Broca et intitulé Le Roi de Cœur, une petite merveille bien oubliée qu'on se repasse entre cinéphiles. Alors, bienvenue au club si vous avez l'occasion de voir, de découvrir ou de revoir Le Roi de Cœur de Philippe de Broca. Quant à nous, eh bien, nous allons continuer à poursuivre en musique, bien évidemment, notre évocation de la carrière de Brian De Palma, ou plutôt d'un moment de la carrière de Brian De Palma, autour de trois films qui se succèdent. Et le second de ces films, je crois l'avoir déjà mentionné, et sinon c'est le moment, c'est une adaptation d'un roman de Stephen King. Alors, le bien connu blockbuster romancier du cinéma américain, certainement l'un de ceux dont les œuvres ont été le plus mieux adapté au cinéma. On peut même considérer, je crois, l'avoir lu quelque part, mais pas dans les petites fiches, que toutes ces œuvres ont été adaptées au cinéma. Et en 1976-77, toujours, c'était Brian De Palma qui s'y collait. Je crois que le roman s'appelait Carrie. Le film aussi, mais en français, on ne sait trop pourquoi. On avait voulu, histoire de bien marquer de quoi il s'agissait, appeler ça Carrie au bal du diable. Dans les rôles principaux, on retrouvait Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving et un invité surprise. Mais je vous le dirai après, nous allons écouter un court mais délicat extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Pino Donaggio, un compositeur un peu oublié maintenant, mais qui fut dans ces années-là l'un des favoris de Brian De Palma. Alors, on ne s'en méfie pas, c'est un peu délicat, parfois un peu mièvre, mais c'est quand même la bande originale d'un film d'horreur dans 24 notes secondes. Voilà, ça ressemble à du Ennio Morricone, ça a le goût du Ennio Morricone, mais ce n'est pas du Ennio Morricone. Un extrait de la bande originale de Carrie au bal du diable, un film de Brian De Palma, 1976, quelque chose par là. Une musique de Pino Donaggio, qui composa d'autres musiques de films pour Brian De Palma, puisqu'on le vit notamment au générique du sublimissime Dressed to Kill, Pulsion, avec Angie Dickinson, et d'une non moins admirable Body Double, dont, à vrai dire, le titre français m'échappe. Et oui, je sais, mais je n'ai pas ma petite fiche sous les yeux. Ce n'est pas si grave, cela nous laisse le temps d'évoquer, là encore, une femme, en l'espèce l'interprète principale du susdit film, la dite Carrie, adolescente, comment dire, un peu troublée, incarnée par une actrice qui se spécialisa quelque peu d'ailleurs dans ses rôles un peu troublés, Sissy Spacek, née quelque part un 25 décembre, ça ne s'invente pas. Dans le Texas, c'est Kikita à l'âge de 18 ans, elle fit bien son état natal pour venir s'installer à New York et avec l'intention de devenir une grande chanteuse de rock'n'roll. Ma foi, la vie est faite de telle manière qu'elle n'y parvint guère et qu'elle commença à tourner en 1972, avant, en 1973, d'être l'interprète principale. Là encore, j'ai évoqué le roi de cœur et nous sommes dans un genre un peu différent, d'un film culte signé d'un réalisateur cultissime, en l'espèce Terrence Malick, qui réunissait dans la balade sauvage, ça s'appelait Badlands dans le titre original et c'était bien plus joli, Martin Sheen et la dite Sissy Spacek, qu'on retrouva donc en 76 en Carrie au bal du diable et qui commença là encore ses belles années, puisqu'en 77 elle fut au générique du Trois femmes glaçant de Robert Altman, tout comme du Welcome to Los Angeles d'Alan Rudolph, sorte de succès d'année, de Robert Altman. Elle obtint en 1979 l'Oscar de la meilleure actrice pour Nashville Lady, où elle interprétait le rôle d'une chanteuse de country music complètement inconnue de ce côté-ci de l'Atlantique, Loretta Lynn. Et puis ensuite, on la vit dans Missing de Costa Gavras en 82, on la vit dans La Rivière de Mark Riddell en 1984, et puis, on la vit beaucoup moins. Elle tourna beaucoup pour la télévision et son physique assez particulier, sa petite taille, eh bien, n'en fire pas l'interprète de tous les rôles, comme l'on dit parfois par euphémisme. Mais c'est bien dommage, car Sissy Spacek est de ces actrices qu'on remarque pas comme toutes ces blondes qui se ressemblent tellement et qu'on voit aujourd'hui sur les écrans. Bref, nous poursuivons notre évocation brève de quelques moments de la carrière de Brian De Palma. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Brian De Palma avait utilisé les services de John Williams, eh bien nous allons écouter, puisque leur tourne sans plus attendre, un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1978, signé De Palma, vous l'avez compris, dont la bande originale était de John Williams, et ensuite, et si seulement j'ai le temps, eh bien je vous en dirai quelques mots, vous êtes dans 24 notes secondes, ça s'appelle, je ne l'ai même pas dit, Fury, la musique est de John Williams. Thank you. J'ai été tellement bavard que cela va être fort bref, un extrait de la bande originale de Fury, un film de Brian De Palma tourné en 1978, dans les rôles principaux duquel on trouvait Kirk Douglas, John Cassavetes, Cary Snodgrass, Charles Durning, Amy Irving et quelques autres. Alors là, indubitablement, 24 notes secondes. Aujourd'hui, c'était trop court, mais malgré tout, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt, je vous dis see you and bye bye. Thank you.